Ces conférences ont pour fil rouge développement durable, la croissance verte, comment? Ce soir, le chapitre a pour titre économie verte. Est-ce que c'est un nouveau modèle pour l'entreprise? Nous avons comme intervenant avec nous, Benoît de Quiconque, qui dirige à la fois la CLESA, on va voir dans un instant ce qu'est la CLESA, et qui est en même temps animateur au collège des hautes études de l'environnement et du développement durable. Alors, première question, Benoît, qu'est-ce que c'est que la CLESA?
Oui, bonjour à tous et à toutes. Oui, la PESA est une structure associative qui est un centre technologique spécialisé en environnement et maîtrise des risques. Son activité est essentiellement d'accompagner le tissu économique dans une démarche vers un monde plus durable. Alors ça va depuis les aspects environnementaux, mais plus globalement, et je vais vous le présenter, la prise en compte de tous les grands enjeux du développement durable.
Et le collège ?
Et le collège. Alors le collège, c'est une structure, c'est un concept qui est né il y a maintenant 15 ans à Paris, qui consiste à rassembler dans une session de 8 mois un groupe de 20 personnes de toutes les origines possibles, alors, depuis le monde agricole, le monde industriel, les collectivités, les services de l'État, le monde associatif, pour débattre des enjeux de développement durable, pour se former, s'informer et débattre des enjeux de développement durable. Et c'est une opportunité pour des gens qui ont déjà des responsabilités de découvrir la transversalité, la diversité, découvrir la complexité de ce que c'est que le développement durable et de se créer vraiment une culture du développement durable. C'est un peu analogue à ce qu'il peut exister pour l'Institut des hautes études de la Défense nationale ou des choses comme ça.
Et qui vient dans ces sessions? D'auditeurs.
Eh bien, tout le monde. Les auditeurs, c'est en général des gens qui ont des responsabilités, donc qui ont déjà un vécu professionnel, et qui viennent de tous les milieux, depuis l'agriculture jusqu'à la collectivité, monde associatif. Et l'enjeu d'une belle session du collège, donc ça dure 8 mois à raison de 2 jours par mois, l'enjeu d'une belle session du collège, c'est d'arriver à rassembler tous les mondes, les banquiers, les assureurs, de façon à ce qu'ils puissent échanger et que les gens puissent travailler ensemble et se rendre compte que ben, il existe des mondes qui ne se connaissent pas forcément et qu'ils apprennent à se connaître.
Bon, je rappelle que le fil rouge de cette soirée, c'est l'économie verte, un nouveau modèle pour l'entreprise. On va laisser Benoît dérouler le fil de sa conférence et puis bien sûr dans la deuxième partie de notre rencontre.
Alors, on enlève ça. Oh, je vais peut-être le laisser comme ça. Comme pour, non
oh,
je vais pas. Là. Oui, donc, juste pour compléter la présentation, je vous ai dit effectivement que je dirigeais la PESA, une structure de 30 personnes qui fonctionne comme une entreprise. Et pour vous donner un peu de profil, mon background est essentiellement industriel, puisque j'ai passé une bonne partie de ma carrière dans le groupe Saint-Gobain, puis dans des PME, à faire tous les métiers de l'industrie, depuis de la recherche et développement appliqué jusqu'à la direction d'usine. Donc quand je vous parle d'un nouveau modèle pour l'entreprise, c'est à la fois un nouveau modèle qu'on a imaginé à force de regarder beaucoup de gens, mais c'est aussi un nouveau modèle que nous, à PESA, essayons de mettre en pratique tous les jours. On parle beaucoup d'économie verte, et si je fais un petit sondage pour vous demander ce que c'est que l'économie verte, je pense que beaucoup de gens me parleraient essentiellement du photovoltaïque, d'un certain nombre d'activités liées aux énergies renouvelables ou autres. Ce que je vais vous décrire aujourd'hui, c'est pas tout à fait ça, c'est vous montrer que toute entreprise aujourd'hui peut rentrer dans un développement plus durable, ou dans ce qu'on va appeler une économie verte ou une éco-économie, à condition de prendre en compte les grands enjeux de la planète. Et je vais essayer de vous montrer par l'exemple comment les entreprises peuvent faire ça et comment il y a des entreprises classiques qui font évoluer leur activité dans ce sens-là. Alors le plan de mon exposé en 3 morceaux. Tout d'abord, quelques réflexions sur le développement durable. Je vais vous donner quelques éléments très simples, mais ma vision de développement durable. Ensuite, je vous présenterai une vision assez proactive de l'entreprise verte, Donc l'entreprise pour améliorer la vie des hommes et réparer la planète. Et puis parce que toutes les entreprises ne sont pas forcément très proactives ou n'ont pas encore franchi le pas, je vais essayer de vous montrer que de toute façon, toute entreprise quelle qu'elle soit, aujourd'hui se doit d'aller vers ça, ne serait-ce que pour anticiper des évolutions totalement inéluctables et donc maîtriser les risques à moyen terme de leur activité. Alors, développement durable, je ne vais pas prendre la définition classique. Pour moi, je repars de cette phrase de Paul Valéry de 1945, qui après la Seconde Guerre mondiale a dit « Le temps du monde fini commence ». Et effectivement, on s'en rend compte de plus en plus aujourd'hui, le monde est fini. Enfin, en tout cas, notre planète est finie et nous avons à vivre sur une planète finie. Et je détaillerai un petit peu. Et le développement durable, c'est trouver la solution pour arriver à faire un développement humain. Alors, après, définissons ce que c'est un développement humain. C'est, bon, dans un premier temps, c'est augmenter la population, puisqu'on sait qu'on va passer à 9 milliards, mais des gens qui vivent mieux, pas forcément plus, mais qui vivent mieux. Un développement humain dans un monde fini. Et ce monde fini, on le voit maintenant de plus en plus, et c'est assez frappant, quand on s'intéresse au sujet depuis quelques années, de voir qu'il y a 3-4 ans, on écoutait la radio, on n'entendait pas grand-chose, et qu'aujourd'hui, il suffit d'écouter la radio, et tous les sujets dont je vais vous parler, on en entend presque tous les jours. Donc c'est le monde est fini, et on le sait, et je pense que vous le savez tous. Le changement climatique, je n'y reviendrai pas, parce que c'est un sujet qui est fortement rébattu. La fin de l'économie pétrole, c'est peut-être une terminologie un peu forte, mais il faut retenir que nous étions 3 milliards au début du siècle, 6 milliards, non 3 milliards il y a 40 ans, pardon, 6 milliards aujourd'hui, et on a consommé la moitié du pétrole, et encore c'est les pays les plus riches qui l'ont consommé. On va passer de 6 à 9 milliards, il nous reste l'autre moitié du pétrole à consommer, donc clairement il y a un problème, et on va être obligé de consacrer le pétrole à des usages bien spécifiques. Donc l'économie pétrole, on utilise le pétrole à tout va, est pratiquement terminée. Et si la crise économique a fait retomber le prix du baril largement, il est très probable, et tous les spécialistes, que ce soit les pétroliers ou l'ADEME, s'accordent à dire que le pétrole va remonter assez vite à des prix aux alentours de 150 voire 200 euros le baril. La raréfaction des ressources naturelles, on pense à des ressources naturelles minérales, on pense à des ressources naturelles de type pétrolier ou fossile. Il y en a une autre auquel on pense moins, mais qui est très importante, c'est l'eau. C'est l'eau. Et l'exemple qu'on a eu récemment, pas plus tard que l'année dernière, où les gens de Barcelone ont été obligés de demander à Marseille de leur envoyer de l'eau par bateau, montre qu'on a quand même des soucis, même dans des pays, même dans des régions où on pouvait imaginer l'Europe où il n'y a pas trop de problèmes d'eau. Alors Aquitaine, terre des eaux, donc je pense que ce n'est pas demain matin qu'on aura des problèmes en Aquitaine, mais en Europe, quoique, en Europe, clairement on a un problème et le reste du monde en a un problème très clair. La disparition de la biodiversité, ça commence doucement à sortir. On a vu notamment un rapport récent qui valorisait le coût de la biodiversité, donc ça c'est quelque chose d'intéressant, mais les spécialistes aussi le disent, on n'est pas très loin de la sixième extinction, et si on relie ça à notre vie de tous les jours, il ne faut pas oublier qu'en 1848, 1849, 1850, les Irlandais ont failli tous mourir de faim. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient plus qu'une ou deux races de pommes de terre et que ces deux races de pommes de terre étaient attaquées par un insecte qui fait qu'il n'y avait plus de pommes de terre. Donc la biodiversité, c'est une espèce d'assurance et on est en train de se supprimer cette assurance en consommant et en limitant la biodiversité, notamment au niveau alimentaire, de manière significative. Et puis la croissance démographique, c'est clair, 6 milliards et demi maintenant, 9 milliards, 9 milliards et demi, probablement moins de 10 milliards d'ici 2050, ça fait quand même 50% de personnes en plus, sachant qu'on a déjà un petit peu de mal à nourrir tout le monde. Alors à côté de cet enjeu, ces enjeux limites de la planète, il y a un enjeu humain. On devient plus riche, si on regarde globalement la richesse du monde, on devient plus riche. Mais cette richesse, elle n'est pas très très bien répartie. Et vous avez ce schéma que peut-être certains ont déjà vu, qui montre effectivement le PIB ou le PNB, et la taille des pays est liée à leur PNB, le produit national brut. Et on voit clairement que l'Afrique n'existe pas. L'Afrique n'existe pas, bien entendu, l'Amérique du Nord, l'Europe et le Japon et la Corée sont énormes. Alors si on faisait ça en 2009, il est probable que la Chine ait réaugmenté, mais tous les indicateurs montrent qu'il y a des déséquilibres de plus en plus importants et que les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Je lisais dans le Sud-Ouest, c'était au mois d'octobre, que les trois quarts de la richesse créée aux États-Unis l'année dernière, ou il y a 2 ans, avait profité à 1% des Américains. C'était sur Claude Dupuis dans le Sud-Ouest. Donc, c'est des éléments qui sont extrêmement importants. Et en 2008, il y a 43 millions de personnes qui sont passées d'un seuil où ils avaient tout juste de quoi manger à un seuil où ils sont en dessous. Enfin, ils crèvent la faim. Donc on est aussi dans une situation où on devient de plus en plus riche, mais on a des gens qui, il y a de plus en plus de gens qui meurent de faim. Donc il y a un déséquilibre, et ce déséquilibre qui a existé dans le temps, parce qu'il y a eu des pays riches et des pays pauvres, ce déséquilibre a aussi l'inconvénient d'être de plus en plus visible. Alors là, c'est un petit peu provocateur, mais pendant qu'il y a des gens qui meurent de faim, si vous n'avez pas de neige dans les Pyrénées, vous pouvez aller skier à Dubaï, c'est la station de ski de Dubaï. Ce déséquilibre, et ça on trouve ça sur internet, donc quelqu'un qui est en Afrique peut aller voir aussi des gens qui font du ski à Dubaï. Ce genre de déséquilibre fait qu'il y a clairement des tensions et qu'on ne pourra pas tenir indéfiniment un monde avec des gens qui sont très riches et qui ont tout, y compris la possibilité de gaspiller une énergie folle, et puis des gens qui n'ont rien. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour l'entreprise? Parce que cet enjeu de développement durable, clairement, c'est un enjeu pour les collectivités, les gouvernants qui vont prendre des décisions. C'est un enjeu pour nous tous qui allons changer nos comportements, espérons-le. Mais c'est un enjeu aussi pour l'entreprise. Parce que l'entreprise, elle vit dans un monde avec des régulations gouvernementales, elle vit dans un monde avec des clients qui sont des individus, et tout ça est en train de bouger ensemble. Le développement durable pour l'entreprise, c'est justement faire rentrer l'avenir de la planète dans sa vie de tous les jours. C'est cette grille de lecture que je vous ai montrée, changement climatique, raréfaction des ressources, qui doit devenir la grille de lecture constante de l'entreprise dans sa manière de fonctionner. Alors il y a 2 manières de le faire, soit on le fait en défensif, et on verra après un peu des exemples effectivement où c'est une maîtrise des risques en disant il faut bouger parce qu'on va être poussé par la réglementation, soit on le fait de manière très proactive, et j'aurais tendance à aller dans ce sens-là, à être un peu plus militant, mais je ne suis pas le seul, puisque Kofi Annan en 99, quand il a lancé Global Compact, la grande initiative pour les entreprises pour s'engager vers un développement plus durable, il a écrit « Choisissons d'unir les pouvoirs des marchés avec la puissance des valeurs universelles ». Il a dit, grosso modo, il y a des forces créatives chez les entrepreneurs privés. Au lieu de les orienter vers des activités qui sont probablement destructrices de ressources et qui n'apportent pas forcément un bien, tout au moins en plus grand nombre, essayons de les orienter vers les besoins des défavorisés et les nécessités des générations futures. Alors c'est vrai que c'est un peu idéaliste, mais il y a des gens qui ont réfléchi bien avant ça et qui ont réussi à faire des choses. Vous connaissez peut-être tous Mohamed Yunus, puisqu'il a obtenu le prix Nobel de la paix en 2006. Mohamed Yunus, c'est un économiste bengali formé dans les meilleures universités américaines, qui faisait ses cours à l'université au Bangladesh et qui voyait autour de lui, quand il sortait, des gens mourir de faim. Et qui s'est dit, il y a un petit décalage entre ce que je vis dans mes cours et puis ce que je vois à l'extérieur. Et comme il était un économiste, il a imaginé le microcrédit. Il a créé en 1976 la première banque. Alors il a mis beaucoup de temps, et si vous êtes intéressé, le livre est assez passionnant. Mais il a réussi à monter quelque chose qui est aujourd'hui une entreprise qui emploie 12 000 personnes, qui prête 4,5 milliards de dollars, qui 12 millions de clients, et en plus qui a un taux de remboursement meilleur que les banques européennes. Donc ces clients sont plus solvables, et pourtant c'est les plus pauvres, puisque la Grameen Bank prête des sommes qui vont représenter un équivalent 10 euros, 20 euros, 30 euros, des toutes petites sommes. Ceci pour vous montrer qu'on arrive à créer des activités économiques. Alors évidemment, elle ne fait pas 15% de rendement, c'est un peu le problème. Les fonds de pension ne sont peut-être pas aussi passionnés par ce genre d'entreprise, mais on arrive à créer des activités économiques tout à fait rentables, qui permettent de faire vivre des gens en luttant contre la pauvreté. Donc l'entreprise durable, c'est une entreprise qui va essayer de s'orienter vers la remise, essayer de travailler pour réparer la planète, pour aider les gens à vivre mieux. Mais quand on dit les gens à vivre mieux, c'est la grande majorité, pas forcément uniquement une petite quantité de privilégiés, même si il y a quand même des activités liées à ceux qui ont les moyens. Et l'entreprise durable, c'est l'entreprise qui va innover en permanence, qui va réfléchir de façon à repenser sa raison d'être et sa finalité. J'étais tout à l'heure au salon de l'entreprise et j'écoutais que faire en cas de crise. En cas de crise, il faut repenser sa raison d'être et essayer de recaler son activité. La seule chose, c'est que souvent on repense dans un cadre classique. Si on veut se mettre dans un cadre plus durable, il faut repenser en regardant ces grands axes, ces grands enjeux de la planète, et essayer de voir si on peut faire quelque chose. Et puis repenser ses produits et ses process en fonction de ce que Philippe Lukács a appelé un futur souhaitable, c'est-à-dire essayer de faire des choses en fonction de ce que l'on voudrait voir sur le futur et non pas ce qu'on voudrait voir immédiatement. Alors repenser sa raison d'être, j'aime bien être un peu provocateur, mais je ne suis pas le seul, puisque Patrick Vivret l'a cité dans son livre. Patrick Lelay, qui était directeur de TF1 à l'époque, un jour s'est exprimé en public, et je pense que tu connais le texte, s'est exprimé en public pour expliquer en gros que le métier de TF1, c'était de préparer les cerveaux des téléspectateurs pour que quand la publicité de Coca-Cola arrive, ils se lèvent de leur fauteuil et à ressaisir un peu un Coca-Cola dans leur frigidaire. Voilà. Alors, est-ce que ça a vraiment de sens? Est-ce que c'est une finalité suffisante? Je prends, et c'est volontairement provocateur, mais l'entreprise verte, ce n'est pas une entreprise qui a simplement pour objectif de produire quelque chose. Il faut qu'elle rende un service, que ça apporte quelque chose à la société. Et c'est là que c'est peut-être différent. Et je vais vous prendre un exemple de Danone, qui n'est peut-être pas l'entreprise la meilleure, mais qui est une entreprise qui fait des efforts. Apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, déjà, c'est une mission qui a du sens. Et ce n'est pas pour rien que Danone s'est associé avec Mohamed Younous pour créer une société qui s'appelle Grameen Danone, dans laquelle le rendement est seulement de 2%, pas 15%, seulement de 2%. Et cette société Grameen Danone, elle a pour objectif de créer des yaourts spécifiques pour les jeunes enfants du Bengale et produits sur place et distribués sur place par les gens, je dirais pas un peu le même système que la Grameen Bank qui distribue les crédits. Donc Danone a imaginé des choses comme ça. Mais ce que je voulais simplement dire à travers cet exemple, c'est que l'entreprise doit commencer à se poser la question: quelle est ma mission par rapport aux enjeux du monde? Et je trouve que celle-là est assez significative. Alors je vais vous en montrer une autre. Peut-être que certains d'entre vous mangent des glaces Ben & Jerry. Ben & Jerry, c'est des glaces qu'on trouve, je crois qu'on en trouve à Auchan, c'est des glaces pas très très répandues, mais enfin, c'est une entreprise qui va très bien. Et c'est une entreprise qui a toujours été un modèle en matière de réflexion durable. Non, apparemment, les gens n'ont pas envie de manger du Ben & Jerry. Un coup de pub, oui.
Non.
Ils font
beaucoup de pubs au cinéma.
Ils font des pubs au cinéma, oui. Mais ils ont une philosophie produit, donc effectivement, fabriquer, distribuer, vendre des meilleures crèmes glacées, ça c'est classique. Ils ont une philosophie économique, conduire l'entreprise sur une base financière saine afin de créer les conditions d'épanouissement de nos employés. Alors vous allez me dire, c'est peut-être du greenwashing, mais quand vous regardez les programmes commerce équitable et que vous regardez sur le site internet ce qu'il y a exactement dans ces programmes commerce équitable, vous vous rendez compte qu'ils poussent le bouchon assez loin. Ils ont une philosophie sociale, donc le rôle central joué par l'entreprise dans la société, donc nouveau moyen d'accompagner, d'améliorer la qualité de la vie des gens au niveau local, national et international. Et là aussi, je vous encourage à aller voir, il y a des programmes socialement responsables, ils accompagnent des choses qui s'appellent les jardins de cocagne, qui sont assez connus en France. Donc ils ont mis en place des choses relativement fortes, et ils ont une philosophie écologique. Ça, c'est extrait de leur site, c'est la philosophie de l'entreprise. Alors je l'ai pris, il y en a plein d'autres comme ça, mais parce qu'effectivement, ça montre un peu ce qu'une entreprise de demain, ou une entreprise verte, doit être. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui fait des produits probablement tous les jours, parce que on a envie de glace.
À quel prix?
C'est pour moi un peu plus cher que la glace de base, oui, c'est clair. C'est clair, mais la question qui se pose toujours, c'est est-ce qu'on a besoin du moindre coût au risque de détruire la planète, et il faut là aussi, et j'ai été impressionné par leur programme agriculture durable, ils sont installés, Ben & Jerry's produit en Hollande, ils ont un programme d'accompagnement de toute l'agriculture, de toutes les fermes qui travaillent avec eux, pour les pousser, ils ont presque un programme de développement agricole avec eux. Hein, donc c'est des choses... alors, ce n'est qu'un exemple, mais ça vous montre qu'effectivement, c'est des entreprises qui pensent leur mission, qui l'écrivent, et puis qui essaient de faire ce qu'ils ont dit. Donc repenser sa raison d'être et sa finalité, et puis repenser ses produits et ses process. Donc je vais revenir là sur des choses classiques, puisque vous connaissez les trois piliers du développement durable. Donc essayez d'aller vers un monde plus équitable, plus vivable et plus viable. Et là, je vais décliner un certain nombre d'exemples par rapport à l'équitable. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un développement équitable? Un développement équitable, c'est d'abord l'équilibre économique à long terme de l'organisation. Et lors d'une des premières conférences que j'ai eu l'occasion de faire devant les ADRIR, j'ai montré qu'effectivement l'équilibre économique à long terme de la France et de la plupart des pays n'est pas assuré, puisqu'on dépense plus que l'on reçoit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce développement équitable n'existe pas dans les grandes organisations publiques internationales. Enfin, les pays ne sont pas dans un mode de développement équitable. L'entreprise, elle se doit l'être parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Assurer une répartition équitable des résultats financiers des efforts communs entre actionnaires, collaborateurs et sous-traitants. Là, on est dans des choses relativement classiques. Mais aussi des répartitions équitables des résultats financiers avec d'autres qui sont plus lointains. Et on va appeler ça le commerce équitable et la lutte contre la pauvreté. Donc, je vous ai déjà montré un exemple de lutte contre la pauvreté. Juste un exemple d'une entreprise qui s'appelle L'Occitane et qui fabrique des cosmétiques à base de karité, que certains connaissent probablement, qui a développé tout un programme d'aide aux coopératives partenaires qui sont au Burkina Faso, la création d'écoles d'alphabétisation, favoriser l'autogestion en incitant les productrices à consacrer de l'argent pour assurer le développement de la filière, donc donner une logique économique à ces pays-là. Et c'est à la fois... je dirais un travail en partenariat, mais c'est aussi l'intérêt direct de l'entreprise parce qu'elle sécurise ses approvisionnements, puisqu'elle a un fournisseur qui est de bonne qualité. Donc c'est aussi, ce genre d'action est aussi une activité où gagnant-gagnant. Un autre exemple classique, en 1997, quand un ancien étudiant d'HEC, Tristan Lecomte, a lancé Alter Eco, en fait c'était tout nouveau. Aujourd'hui le commerce équitable est même rentré dans les grandes surfaces, puisque les grandes surfaces lancent leur série de commerce équitable. C'est une activité qui est à la fois une activité économique rentable, mais qui est une activité qui a du sens et qui correspond à un besoin global de la population. Oui, j'avais juste mis cette image pour vous montrer qu'aujourd'hui, sans publicité, que Leclerc a lancé sa gamme de commerce équitable, mais je crois que la plupart des grandes marques y sont allées. Je notais juste que c'était 97 et c'était une entreprise qui avait anticipé. Et une des caractéristiques des entreprises vertes, ces entreprises sont capables d'anticiper, d'aller un peu plus loin, parce que c'est là que ça donne la différenciation. Après, quand tout le monde fait la même chose, du point de vue économique et du point de vue entrepreneurial, c'est moins significatif. vers un monde plus équitable, plus vivable et plus viable. Dans le domaine du vivable, quel est l'objectif? C'est d'assurer le bien-être et le développement de tous les hommes et toutes les femmes. Donc c'est la santé, la sécurité des personnes. On a énormément d'activités qui existent en Europe pour assurer notre santé et notre sécurité. C'est la maîtrise des risques naturels et industriels, même si on a encore quelques soucis. Mais c'est aussi, et c'est là des axes forts pour le développement ou l'économie verte, c'est l'accès à l'eau pour tous, c'est une nourriture équilibrée pour tous, je viens de vous montrer l'exemple de Danone, c'est un accès aux soins pour tous, et c'est un urbanisme vivable. Alors je vais rentrer dans deux, trois exemples. Un exemple qui, là aussi, est en train de monter en régime, c'est que jusqu'à présent, entre 1975 et 1997, on ne faisait des médicaments que pour les riches, ceux qui avaient les moyens de payer des médicaments. Autrement dit, sur 1233 médicaments, il y en avait 13 qui ciblaient les maladies infectieuses tropicales, dont on sait qu'elles tuent quelques millions, voire quelques dizaines de millions de personnes tous les ans. Et on sait en plus les guérir. Depuis, les choses sont en train de changer et un certain nombre de grandes entreprises se sont lancées dans la fabrication de médicaments pour les plus pauvres. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'on voit effectivement ces opérations se lancer avec des aides financières sous forme de partenariats publics-privés, des ONG et des fondations. Et celle qui est la plus active dans ce domaine-là, c'est la fondation Microsoft. Autrement dit, les gains de l'électronique et de l'informatique sont réutilisés pour aider à financer les plus pauvres. Alors j'ai pris l'exemple très concret qu'il y a aussi des petites entreprises qui se créent, la Palumette qui a été créée en 2002 à Toulouse et dont l'objectif c'est de développer des médicaments contre le paludisme. Mais au-delà de ces petites entreprises, là maintenant on commence à voir les grands de la pharmacie se lancer sur ces marchés. C'est des marchés nouveaux et c'est des marchés qui font plus de sens que de produire indéfiniment de nouveaux médicaments dont on n'est pas sûr qu'ils ont tous une valeur ajoutée énorme pour uniquement les gens des pays riches. Je vous ai parlé d'eau tout à l'heure, je vous ai parlé de Barcelone qui avait quelques soucis d'eau. L'approvisionnement en eau est un souci important et 40% des hommes qui n'ont pas d'eau sont à moins de 70 km, donc sont tout près des côtes. Produire de l'eau douce par dessalement, c'est une solution technique. Alors, c'est une solution technique dont certains me diront que ça consomme beaucoup d'énergie, je suis bien d'accord, mais si on n'a pas d'eau, là c'est carrément la mort, donc il vaut mieux effectivement essayer d'avoir un peu d'eau. Et aujourd'hui, une des plus grosses unités de dessalement est en train de se construire, ou à démarrer, à côté de Barcelone, justement pour résoudre ce problème-là. Aider et trouver des solutions, alors peut-être des solutions énergétiquement plus efficaces que le dessalement tel qu'il existe, pour arriver à dessaler l'eau de mer et arriver à donner à boire à tous ceux qui ont soif, je pense honnêtement que c'est un des axes forts pour une économie verte de demain. Dans le domaine de l'urbanisme vivable, on a beaucoup de choses à faire puisque aujourd'hui on se rend compte que nos villes telles qu'elles ont été conçues et il y a deux jours François Moisan nous montrait effectivement l'impact énergétique que représente l'étalement des villes et qui est absolument effarant dans les grandes villes américaines. On a à reconcevoir tout un tas d'activités. Alors là je vous ai montré l'exemple de l'écoquartier de Vauban qui est un écoquartier extrêmement médiatisé parce que c'est un des premiers qui a été construit et puis que la ville de Fribourg a été très avant-gardiste dans ce domaine-là. Mais l'écoquartier de Vauban, c'est un écoquartier où non seulement on a conçu des maisons avec des matériaux plus performants, avec des techniques plus performantes, mais on a aussi reconçu la ville de façon à ce qu'il n'y ait plus ou pas, pratiquement plus de circulation automobile. Et il y a encore des routes, mais je crois qu'il y a une voiture pour 10 habitants, quelque chose comme ça. Et donc, c'est un énorme travail qu'il va avoir à faire, où là, il y a énormément de matières grises et des enjeux forts pour les entreprises, pour non seulement concevoir les matériaux, mais reconcevoir les villes Et puis il y a des enjeux aussi pour les collectivités pour travailler à la reconception de ces villes. Troisième domaine, c'est le viable. C'est là que vous allez retrouver des choses que vous connaissez peut-être plus et dans lesquelles vous imaginiez peut-être plus l'économie verte. C'est réduire notre impact sur les ressources naturelles et sur les milieux. Donc ça veut dire réutiliser, recycler les matériaux en fin de vie. Nous avions tout à l'heure à une réunion du MEDEF un exemple de l'industrie des travaux publics qui aujourd'hui arrive à avoir pratiquement 10% des matériaux qui viennent des recyclages, qu'on appelle les fraisas de route, 10%, mais ils arrivaient à 10% et pas plus. Il va falloir trouver des solutions pour aller à 20-30% de recyclage de matériaux en fin de vie, réduire l'impact de nos activités, plus propres et plus sobres, développer des nouvelles solutions énergétiques, et puis je m'arrêterai un petit peu sur des fonctionnements industriels globalement plus économes, ce qu'on appelle l'écologie industrielle ou l'économie de la fonctionnalité. Toujours dans la réflexion, effectivement, pour rentrer dans l'économie verte, ceux qui sont rentrés dans l'économie verte, c'est ceux qui ont vraiment anticipé. Je voulais présenter l'exemple d'Ecovert, qui est une entreprise belge, qui fabrique des détergents et des produits d'entretien respectueux de l'environnement. Alors aujourd'hui, il suffit de regarder les affiches pour voir que Henkel ou un certain nombre de grandes marques commencent à produire des détergents verts. La seule différence, c'est que Ecovert a été créé en 1979, à une époque où c'était encore assez nouveau, voire carrément militant de démarrer ce genre de choses. Et ce que je voulais montrer aussi, c'est qu'il y avait un enjeu économique non négligeable, puisque Ecovert a réussi à développer son activité avec une croissance annuelle supérieure à 10%, et qui était même de 28% en 2006. Donc c'est une activité qui est tout à fait rentable. Ceci pour couper court à l'idée que quand on s'engage dans ce genre d'activité, ce n'est pas forcément rentable tout de suite. Quand on est le premier à le faire, et on le voit dans pas mal d'exemples, quand on est le premier à faire, on voit que l'entreprise est capable de créer un marché et qu'ensuite les consommateurs s'engagent derrière. Un exemple local que peut-être certains d'entre vous connaissent, Goupil Industries. Goupil Industries, c'est le démarrage dans un garage, ou presque, puisque c'était un fabricant de nacelles qui a eu l'idée un jour de créer un véhicule électrique. Alors pourquoi Goupil ? Parce que c'est des voitures électriques sympas et rusées. Un véhicule électrique conçu pour fonctionner uniquement à l'énergie électrique et un modèle utilitaire. Ils ont démarré à Tonneins dans une entreprise de loueurs de nacelles. En 2002, ils sont devenus indépendants. En 2006, on est déménagé et aujourd'hui, c'est une entreprise extrêmement prospère qui a développé son activité et qui est clairement très bien positionnée sur le marché. Et Objectif Aquitaine connaît bien, puisque c'est une source, Objectif Aquitaine. Alors, je ne voulais pas multiplier les exemples, mais tout ceci pour vous montrer qu'effectivement, prendre les enjeux de la planète, que ce soit les enjeux énergétiques, les enjeux climatiques, les enjeux de raréfaction des ressources, les enjeux de biodiversité, les prendre à bras le corps et imaginer des solutions pour répondre à ces enjeux-là, clairement, c'est une opportunité de développement pour les entreprises et c'est des entreprises qui se positionnent mieux. Alors, je vais citer, avant d'entrer dans l'écologie industrielle, je vais citer deux exemples que j'ai vus récemment. Une entreprise de transport, de location de véhicules, bien connue ici, qui s'appelle GT Industries. Une entreprise qui s'est engagée à un moment donné en disant le changement climatique, c'est quelque chose de fort pour nous les transporteurs. On est attaqué de partout, on produit du CO2. Je vais m'engager dans une charte de réduction des émissions de CO2, dans de l'éco-conduite, dans une démarche de remise en état de mes camions ou changement de mes camions pour leur donner des camions de meilleure qualité environnementale. Et à partir de cette démarche-là, il a vu des clients se tourner vers lui en disant, mais puisque vous êtes capable de faire ça, je vais vous proposer des nouveaux marchés. Et notamment Monoprix, qui est venu le voir en lui disant, mais puisque vous avez une démarche très proactive dans ce domaine-là, pourquoi vous ne viendriez pas avec moi pour faire du transport par gaz, par camion avec du gaz, dans la ville de Paris, pour faire l'approvisionnement de la ville de Paris. Et il a vu McDonald's qui est arrivé en lui disant, ben nous aussi on a une démarche dans ce domaine-là, et donc puisque vous faites quelque chose, on va travailler avec vous. C'est ceci pour vous montrer que c'est des exemples où quand on s'engage vers une économie plus verte, ça peut avoir assez rapidement des impacts. Un autre exemple, là aussi, qui visait à réduire les impacts, c'est l'exemple d'Atrium, autre entreprise locale bien connue. Alors Atrium, c'est une entreprise qui travaille avec Steelcase fournisseur de mobilier. Atrium, c'est une entreprise qui installe du mobilier, enfin qui fait de la reconception d'intérieur pour des bureaux, la reconception de bureaux. Et c'est une entreprise qui a engagé une démarche très forte pour elle et qui a même reconçu complètement ses bureaux et qui montre à ses clients, voilà comment nous, on a imaginé des solutions. Et le directeur qui nous expliquait ça il n'y a pas très longtemps nous disait, finalement, je montre à mes clients, mes futurs clients, et quand ils voient ce que j'ai fait, ils me disent, vous allez faire la même chose chez moi. Donc effectivement, s'engager fortement dans ce genre de démarche, ça devient aujourd'hui extrêmement payant. Alors je voulais parler de deux choses, d'écologie industrielle et d'économie de la fonctionnalité. Écologie industrielle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire essayer de faire comme le système biologique, c'est-à-dire rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Dans un système, dans un monde biologique, les déchets des uns deviennent la matière première des autres. Dans notre monde, aujourd'hui, on crée des déchets et puis on les met dans un coin, dans les décharges. Au mieux, on les incinère, donc on essaie d'en tirer un peu d'énergie. Et il y a une réflexion relativement forte qui se développe en disant comment pouvons-nous essayer d'accélérer ce phénomène qui veut que les déchets des uns, alors les déchets ça peut être de la vapeur, hein, ça peut être de l'énergie supplémentaire, ça peut être des cendres, ça peut être des eaux usées, sont utilisés par d'autres de façon à être travaillés. On a des exemples, je dirais emblématiques, Kalundborg en Danemark, où effectivement un certain nombre d'usines ont réussi à le faire, mais on a des exemples plus près de nous, le bassin de Lac, et dans une logique de mutualisation où l'énergie d'incinération des ordures ménagères est utilisée par les industriels, les consommables, la vapeur des uns excédentaire est utilisée par les autres industriels. Mais c'est une démarche globale dans laquelle je pense que beaucoup, non seulement d'entreprises, mais là on est dans un cadre où il faut travailler, raisonner en territorial, et là c'est un peu plus compliqué, beaucoup de zones industrielles, beaucoup de parcs technologiques ou de parcs industriels peuvent commencer à travailler. Alors c'est un concept qui est difficile à mettre en œuvre, qui est très efficace écologiquement, mais difficile à mettre en œuvre parce que ça veut dire qu'il faut tous travailler ensemble et qu'il faut sortir d'une des problématiques que nous avons le plus, c'est d'être individuel, tant en tant qu'individu ou en tant qu'entreprise. Chacun est dans son coin et sur le bassin de Lac où il y avait des exemples d'écologie industrielle tout à fait intéressants. On a un exemple qui est en train de se casser brutalement parce qu'un industriel qui travaillait avec un autre et qui échangeait des matières premières en permanence a décidé que, je suis américain, Célanèse américain, a décidé que l'usine n'était pas rentable et tout l'équilibre d'échange de matières premières qui s'était constitué tombe à l'eau. Donc ça veut dire que c'est des concepts qui sont très intéressants, mais c'est des concepts qui veut dire qu'il faut qu'on revienne à une sorte de solidarité, non seulement entre individus, mais entre organismes type entreprise et collectivité. Alors plus facile à mettre en œuvre et probablement beaucoup plus porteur de potentiel dans le futur, c'est ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. Aujourd'hui, si vous êtes un transporteur routier, que vous avez une flotte de 50 camions qui roule énormément, 120 000 km par an, vous avez besoin de pneumatiques. Vous n'avez pas forcément besoin d'acheter les pneumatiques, vous avez besoin qu'il y ait des pneumatiques en permanence sur vos véhicules. Et Michelin a bien compris qu'il a proposé à ses industriels ce qu'on appelle les fleet solutions, en disant je ne vous vends pas les pneumatiques, je vous les loue. Au kilomètre, ça sera tant du kilomètre. C'est un coût complètement maîtrisé pour le client, puisqu'il sait que tant qu'il, chaque fois qu'il fait un kilomètre, ça lui coûte tant. Et surtout, pour Michelin, ça veut dire qu'il a un intérêt objectif à faire durer le pneu le plus longtemps possible. Donc Michelin, au lieu de vendre du pneumatique en grande quantité, ou de remplacer souvent le pneumatique, va mettre du personnel, et c'est ce qu'il fait, il met du personnel pour entretenir le pneumatique, regonfler le pneumatique, le sortir et le rechapper pas trop tard, de façon à ce qu'il soit rechappable facilement. Il s'agit de pneus poids lourds, hein, on parle de poids lourds. Et donc on a une logique où le pneumatique va durer deux fois plus longtemps, et au lieu de vendre du pneumatique, on vend du pneumatique plus un service. La fonctionnalité est là, le client est content, et globalement, la planète s'en trouve mieux, puisqu'on va consommer, a priori, deux fois moins de caoutchouc, et on va faire travailler les gens. Alors ça, c'est un concept qui est relativement riche, qui commence à se développer, et si je reprends des exemples comme les gens qui font de l'aménagement de bureaux, on s'aperçoit que dans l'aménagement de bureaux, ils vendent de plus en plus de conceptions et de réflexions, et quelque part de moins en moins de matériel. Et que petit à petit, on va arriver dans une vente d'un service, un aménagement, un service où il y aura un élément matériel et un élément immatériel. Alors je vais vous donner d'autres exemples qui sont là plus visibles d'économie de la fonctionnalité. C'est tout ce qu'on appelle les Vélib, les Autolib. Alors Autolib, c'est la voiture libre-service qui sera en principe en 2010 dans la ville de Paris. C'est tous les autopartages. Alors il se trouve que là c'est celui de Toulouse. Je ne sais plus comment ça s'appelle à Bordeaux, c'est Autocom. C'est Auto? Autocool. C'est Autocool. Donc effectivement, je n'avais pas le logo d'Autocool. Mais toutes ces solutions qui sont des solutions où finalement vous avez une fonctionnalité, vous avez un véhicule, sans avoir à immobiliser un véhicule et à consommer une matière. Alors là, je vous ai parlé de gens qui sont très positifs, de gens qui ont anticipé. Je vais juste faire quelques remarques sur le fait qu'effectivement, de toute façon, tout le monde va aller vers l'économie verte, qu'on le veuille ou pas. Parce que les grands enjeux de la planète, tous ces enjeux, se finissent par se traduire par des changements de comportement à la fois des salariés, des consommateurs, des clients, des fournisseurs, des collectivités, du législateur. Tout le monde est en train de bouger. Et que l'entreprise, au milieu de tout ça, puisque c'est toutes ces parties prenantes, a intérêt à anticiper les évolutions plutôt que les subir. Je citerai juste à titre indicatif ce qui est en train de se passer aux États-Unis, où les grandes sociétés américaines de production d'automobiles sont en train de se prendre de plein fouet un changement très brutal qu'ils n'avaient absolument pas anticipé. Alors, dans le domaine des travailleurs et des salariés, il y a tout ce qui est la santé, sécurité des travailleurs, mais pas seulement, donc maîtriser la mise en œuvre des substances toxiques. Aujourd'hui, les entreprises comme Ecovert ou les entreprises qui utilisent des produits moins toxiques sont dans une situation meilleure. Mais il y a aussi effectivement le fait que les gens se sentent mieux pour travailler dans les entreprises. Et là, je vous ai mis les exemples des 100 meilleures compagnies pour lesquelles il faut travailler. Alors, c'est un modèle qui existe essentiellement aux États-Unis. Ce genre de classement, on ne le trouve pas encore trop en France. Mais les anglo-saxons aiment bien faire ce genre de choses. Et ce n'est pas négligeable parce que quand on regarde, et il y a une étude qui a été faite par Deloitte sur ces 100 meilleures compagnies évaluées par leurs employés. C'est les employés qui évaluent leur entreprise. Quand on fait une étude sur ces 100 meilleures entreprises, ces entreprises ont des résultats boursiers significativement différente et qui peut aller jusqu'à 30% de plus d'amélioration par rapport aux standards de l'équivalent du 440 américain. Donc ça veut dire aussi que les salariés ont un impact, l'opinion des salariés a un impact sur la qualité de l'entreprise. Alors il y a les salariés, mais il y a aussi les consommateurs. Ceux qui sont au fond peut-être, n'arrivent peut-être pas à lire, je vais vous lire. Une seconde, Richard, avons-nous suffisamment mesuré les implications personnelles, familiales, économiques, géopolitiques et environnementales sous-jacentes à court, moyen et long terme à l'achat de ces 18 merguez en promo? Alors c'est humoristique, mais ça traduit quand même pas mal la manière dont les consommateurs sont en train d'évoluer. Et une étude de Ethicity qui est sortie en 2009, voilà quelques exemples de réponses à des gens à qui on demande leur avis. J'ai changé mon comportement pour le développement durable sur les 12 derniers mois. Je fais attention à ne pas acheter des marques d'une entreprise dont je réprouve le comportement. À travers mes choix d'achat, j'agis au service de mes convictions. Donc vous voyez des pourcentages relativement élevés. Je ne suis pas sûr encore que les gens fassent tout ce qu'ils disent. Mais cette étude qui est faite régulièrement montre quand même qu'il y a une progression significative des gens qui l'affirment. Alors on commence par l'affirmer et puis à un moment donné on finit par le faire.
C'est vrai que tout va bien avec ce sondage.
Ah, tout va bien avec ce sondage. Non, mais tout va bien avec ce sondage. Ce que je veux dire avec ce sondage, c'est que c'est essentiellement le consommateur commence à changer. Alors, il ne change pas encore complètement dans ses attitudes d'achat. Et effectivement, la crise et les difficultés font qu'il ne change pas complètement. Mais petit à petit, et on le voit avec, alors je reprends l'exemple de Monoprix, qui accepte de payer plus cher pour avoir des voitures au gaz qui transportent, pour amener tous les produits par train jusqu'à une gare à Bercy et transportés par des véhicules au gaz dans la ville de Paris. Ben, ça représente plus de 20% sur le coût logistique. Et aujourd'hui, Monoprix est capable de vendre plus parce qu'il sait qu'il y a un certain nombre de gens qui sont prêts à payer. Alors, je vais prendre je voulais parler des salariés, je voulais parler des consommateurs. Il y a aussi la réglementation. Le risque carbone, on parle beaucoup des problèmes de carbone. Le risque lié à l'évolution rapide de la fiscalité lié au changement climatique et au coût de l'énergie, c'est un risque non négligeable. Aujourd'hui, on en parlait le mardi soir de la taxe carbone. La taxe carbone n'est pas encore tout à fait là, mais elle est en train d'arriver. Et je vais les mettre tous. Si vous allez dans les supermarchés casinos, je suis désolé, j'ai fait un peu de publicité, mais c'est les seuls qui aujourd'hui le font. Si vous allez dans les supermarchés casinos et que vous prenez les produits casinos, vous allez voir un petit chiffre là dans un coin où il y a l'indice carbone du produit. Si vous allez dans les supermarchés Leclerc du nord de la France, on va vous sortir un ticket avec la quantité de carbone qu'il y a dans ce que vous avez acheté. Alors vous allez me dire aujourd'hui, c'est pas encore tout à fait significatif, mais dans 2 ans, ça sera la règle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise qui aujourd'hui se dit faire mon bilan carbone, évaluer mes impacts en matière d'émissions à gaz à effet de serre, c'est trop compliqué, c'est trop je ne sais pas faire. Cette entreprise, elle va se retrouver demain face à des clients qui vont lui dire, eh bien alors quel est votre impact carbone? Et je reviens donc à GT qui avait réussi à réduire son impact carbone et qui a réussi à convaincre ses clients que ben, c'était une raison de travailler avec lui. Mais je vais reprendre un autre exemple très très concret et très récent. Dans le sud de l'Aquitaine, sur le bassin de Lac, il y a une entreprise espagnole qui s'appelle Abengoa Bioénergie qui fait des biocarburants. Et la stratégie d'Abengoa au niveau mondial, c'est de demander à tous ses sous-traitants de faire leurs évaluations de gaz à effet de serre. Et tous les sous-traitants du bassin de Lac qui travaillent avec Abengoa ont eu la grande surprise en début d'année d'avoir l'entreprise Abengoa leur demander leur impact en matière de gaz à effet de serre. Alors pas forcément un bilan carbone, parce que c'est une entreprise espagnole et que les Espagnols ne font pas le bilan carbone comme on le fait, mais ça veut dire que là, on a tout d'un coup eu un choc avec un certain nombre d'entreprises, même des toutes petites, à qui on a dit, mais qu'est-ce que vous faites au niveau carbone ? Voilà, j'ai terminé la présentation à peu près dans les temps, puisqu'on s'était donné 50 minutes. Il y aurait beaucoup, beaucoup d'exemples, mais ce que je voudrais plutôt, c'est échanger avec vous. Ce que je voulais vous faire passer comme message, c'est que, s'engager fortement pour essayer de réparer la planète, d'apporter quelque chose à ceux qui en ont besoin, ça marche, clairement, et que ça marchera pour le moment de plus en plus. Et que pour toutes les autres entreprises, l'économie verte, ça va devenir une réalité, qu'ils le veulent ou qu'ils ne le veuillent pas. Et je reprendrai cette phrase de John Fitzgerald Kennedy, qui l'avait dit probablement dans un autre contexte, mais qui a été repris par Lester Brown dans un livre assez intéressant sur l'éco-économie ou l'économie verte, qui consiste à dire que l'action, c'est vrai, s'engager dans quelque chose, ça a des risques et des coûts, mais aujourd'hui, surtout aujourd'hui, les coûts sont beaucoup moins élevés que les risques et les coûts à long terme de ce qu'on peut appeler une action confortable. Et quand vous lisez ça, vous pouvez avoir, c'est à peu près la conclusion du rapport Stern 2006. C'est ça qu'il a dit, hein. C'est exactement ça qu'il a dit. C'est que de toute façon, ça paye plus à moyen terme de faire quelque chose que de rien faire. Voilà, et puis je vais terminer avec ma phrase fétiche de Darwin. Les espèces qui survivent, ce n'est pas les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le plus vite au changement. Et on est clairement aujourd'hui dans un changement extrêmement rapide. Et les évolutions de ces derniers temps liées à la crise financière montrent qu'il faut être extrêmement agile dans le monde d'aujourd'hui et bien regarder les signaux faibles qui deviennent de plus en plus forts par rapport aux enjeux de la planète. Merci de votre attention.
Comment